La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et merci d'être fidèle au rendez-vous de la mêlée de l'info. La France n'a toujours pas de gouvernement pour l'instant, mais le budget de l'État va devoir être présenté rapidement. Les urgences et les difficultés s'accumulent pour Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. On en parle avec les trois invités de cette émission. Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain, Thibaut Casal, enseignant, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne, soutien du Nouveau Front Populaire, et Gabriel Robin, essayiste, contributeur des sites Atlantico et Causeur, directeur de l'agence Monceau. Bienvenue également à tous les trois, merci d'avoir accepté de débattre ensemble. Michel Barnier n'a donc toujours pas formé son gouvernement, mais il paraît que ce serait sur le point d'être dévoilé. On commence à se demander s'il allait y parvenir. En attendant, la question de la présentation du budget de l'État pour 2025 se fait de plus en plus urgente. Ce document devait en principe être déposé par le gouvernement le 1er octobre, mais compte tenu de la situation, on parle maintenant du 9 octobre. Quoi qu'il en soit, l'élaboration du budget de la France n'a jamais paru aussi problématique dans un pays dont la dette et les déficits publics sont en hausse constante et alors que le contexte politique est pour le moins incertain. Selon vous, de quelle marge de manœuvre et de quel levier dispose le futur gouvernement pour élaborer le budget de l'État en tenant compte des contraintes du moment, qu'elles soient économiques, sociales, énergétiques ou géopolitiques? La question est complexe, je l'avoue, et je la pose d'abord à Guillaume Agulot.
Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, une question économique, ben, ça tombe bien puisque j'ai un bac économique, on disait bac B à mon époque.
C'est
bac
pour ça que je vous ai posé la question
et
en premier.
Et si je le dis aussi un peu sous forme de boutade, c'est aussi parce que j'ai entendu, comme vous, hein, comme tout le monde, beaucoup de personnes qui, je pense, étaient à peu près autant qualifiées que moi, hein, pour donner des avis bien plus importants que les nôtres autorisés. Comment faire un budget? Je pense que la question, c'est pas en une heure qu'on peut répondre à ça. La question est infiniment plus complexe. Ceci dit, en réalité, dans votre question, il y en a plusieurs. D'abord, il y a un problème sur la composition de ce budget, il y a un problème de fond. Vous avez dit ce budget qui doit être en principe déposé le 1er octobre. Non, ce budget qui doit être déposé le 1er octobre.
C'est la règle,
pas
normalement.
En principe.
C'est la règle.
C'est la loi organique. Qui le dit, tout simplement, le premier mardi du mois d'octobre, c'est le 1er octobre. Ça veut dire que si c'est ça, on a un Premier ministre qui n'est pas encore investi en politique générale, qui n'a pas encore composé son gouvernement, même si apparemment, effectivement, ça bruisse beaucoup en ce moment, qui se permet d'emblée de dire « je vais m'asseoir sur la règle ». Voilà. On a déjà eu... on ne va pas revenir sur la nomination effectivement et les semaines d'atermoiement qui ont abouti à cette nomination de Premier ministre et qui ne correspondent pas exactement, pas réellement quand même à des résultats sortis des urnes, il y a des compositions d'assemblée, ça a été largement évidemment débattu, mais là déjà on a quelqu'un qui n'a pas de confiance de l'Assemblée, des représentants de la nation, qui ne l'a pas encore, qui n'a pas de gouvernement, mais qui commence en disant « je vais m'asseoir sur la règle, pas n'importe laquelle, la loi organique ». Là, déjà, on a quelque chose qui me paraît, moi, complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il en est le seul responsable, mais en tout cas, c'est lui qui décide.
Il est certain que s'il avait été nommé il y a deux mois, les choses seraient différentes.
On est bien d'accord. Il y a autre chose. C'est qu'avant même de commencer ça, il commence à dire « bon, ben, il va falloir augmenter les impôts. » Parce que j'ai regardé, c'est catastrophique. Il n'y avait pas besoin forcément d'arriver à Matignon pour savoir que les finances françaises ne sont pas non plus dans le meilleur état qui soit.
État, oui.
Et je vais... Et alors évidemment, j'attends de voir est-ce que ça hurle beaucoup, moyennement, pas trop, pour savoir si... C'est-à-dire que sur un sujet qui est aussi sérieux que celui-là, on a encore une fois un Premier ministre nommé, mais qui n'est pas légitimé, qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas de budget, qui commence déjà... à composer son budget, c'est-à-dire l'orientation stratégique de son budget, à partir de ballons d'essai. Mais on est où? Moi, on m'avait toujours expliqué qu'en réalité, la France était une république démocratique. Il paraît que c'est écrit indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il paraît que c'est écrit dans notre Constitution. Alors moi, je commence déjà à voir dans les signaux de fonctionnement de ce nouveau Premier ministre des choses qui m'inquiètent. Et ça commence par le budget. Ben oui, c'est ce qui est le plus urgent aujourd'hui. C'est ce qui doit être sur la table, avec des urgences. Vous avez noté que d'ailleurs, maintenant, on ne parle plus d'urgence, parce que dans le langage politique, ça ne marche pas. On parle de priorité. Et au fur et à mesure des choses, évidemment, tout devient priorité. Et donc, maintenant, on est rentré à établir des priorités de priorités. On avait la priorité des priorités. Maintenant, on a les priorités des priorités. J'ai cru comprendre lors du discours de passation que la première des priorités serait l'éducation nationale, forcément. Son prédécesseur était précédemment ministre de l'éducation nationale et avait mis un petit coup de pression là-dessus. Et puis, maintenant, la priorité des priorités, c'est de réduire les déficits. Et puis, la priorité des priorités, c'est de réindustrialiser. Et puis, la priorité des priorités, etc., etc. C'est-à-dire que chaque axe de volonté politique va devenir la priorité, c'est-à-dire en chassant toutes les autres. Avant, c'était de la communication quand on disait ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la ligne aujourd'hui de ce Premier ministre pour construire son budget. C'est-à-dire que ce budget va être arrêté, en fait, en fonction du dernier qui aura parlé. Et donc là, on va scruter évidemment avec attention qui sera nommé. Le poste, son nom bruit là depuis un petit moment maintenant pour occuper le poste à Bercy n'amène pas forcément nécessairement vers une augmentation de la dépense publique, c'est le moins que l'on puisse dire. En même temps, peut-on encore augmenter la dépense publique, sauf qu'en même temps on nous explique qu'il y a une guerre qui est à nos frontières, que le prix de l'énergie est en train d'exploser, qu'il faut réindustrialiser, etc. C'est une vraie quadrature du cercle. Clairement, je pense qu'on a déjà assisté à un numéro d'équilibriste pour la composition du gouvernement. Encore une fois, on attend les noms et on va voir ce que ça donnera. J'ai peur de ce que je vois, de ce que j'entends. J'ai peur que la première marche soit déjà la dernière pour ce gouvernement Barnier.
Alors, après cette première intervention de Guillaume Agulot, je vais donner maintenant la parole à Thibault Casal. Alors vous, qu'est-ce que vous imaginez que le nouveau gouvernement et son Premier ministre vont pouvoir faire de cet exercice d'équilibriste consistant à faire le budget de l'État dans les circonstances actuelles.
Alors bon, même si moi j'ai pas eu un bac économique et social, moi j'ai fait un bac littéraire, mais bon, vu que du coup la question m'est posée, je vais quand même essayer de répondre avec les facultés qui sont les miennes. Mais tout d'abord, bah oui, enfin Guillaume Agulot a dit quelque chose de très vrai, c'est déjà qu'on commence avec un gouvernement qui, au final, se moque de la loi. Et donc, quand on se moque de la loi, bah, généralement, on dit qu'on est hors la loi. Et là, on a quelqu'un qui décide de présenter cette loi le 9 octobre, alors que normalement, ça doit être déposé au plus tard, le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Article 39, voilà. Bon, donc là, on décide de passer au niveau des règles. Et comme l'a dit Guillaume Agulot, le problème, c'est qu'on est en train de créer des précédents. Mais comme il y a quelques semaines, en fait, on a créé un précédent en nommant quelqu'un qui est arrivé, dont le parti est arrivé quatrième à l'élection législative. Et à force de créer des précédents comme ça dans notre République, si un jour, malheureusement, en 2027, car c'est possible, l'extrême droite arrive au pouvoir, ben, on leur laisse la possibilité de s'arranger. Parce qu'on leur montre qu'en fait, c'est possible. On leur montre qu'on peut s'arranger avec les lois de la République et que ça peut se faire comme ça. Et actuellement, c'est ce qu'est en train de faire le Premier ministre. Alors oui, tout ça, c'est quand même la faute d'un président qui a tardé pour nommer un Premier ministre. Et donc aujourd'hui, le Premier ministre se retrouve au pied du mur. Ok, ça, c'est vrai. Mais c'est pas le seul responsable aussi. Parce que quand on parle de constituer un budget, on pourrait parler aussi des lettres plafond, qui constituent une étape majeure dans ce processus d'élaboration du budget. Et là, on voit quand même le gouvernement démissionnaire, celui qui était chargé de traiter les affaires courantes, et qui en réalité n'a pas forcément traité que des affaires courantes d'ailleurs, on voit une volonté au final, en refusant de donner ces lettres plafond, alors que c'est le droit du président de la commission des finances.
Faut rappeler ce que c'est les lettres plafond, parce que tout le monde ne le sait pas forcément.
Alors, du coup, ces lettres plafond qui sont nécessaires pour constituer le budget doivent être fournies par le gouvernement précédent pour pouvoir élaborer le budget de l'année suivante. Donc, on a eu Bruno Le Maire, le Mozart de la finance, qui nous a joué une partition qui a fait que la France aujourd'hui a un déficit très important. A dit que ces lettres plafond étaient caduques et refuse du coup de les donner au président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. En fait, on voit de plus en plus, avec toutes ces manœuvres, une volonté réelle d'abîmer la démocratie parlementaire et donc par là même la République. Parce que comme Guillaume Agulot l'a répété, la République, elle est démocratique, elle est indivisible et tout ça, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas s'arranger avec la République, avec la démocratie. Parce que le jour où l'extrême droite sera au pouvoir, si ça arrive, ben malheureusement, eux aussi vont pouvoir se permettre ça parce qu'au final, certains qui se disent républicains se seront permis de le faire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si la gauche, qui aurait dû normalement être nommée au gouvernement, qui aurait dû avoir le Premier ministre avec Lucie Castet et aurait pu former un gouvernement, si la gauche s'était autant arrangée avec les règles, j'aimerais bien savoir quand même ce qu'aurait dit l'ancienne majorité présidentielle, etc. Bon, on voit au final dans les bruits qui sortent qu'on a un gouvernement où il y aurait sept membres du gouvernement qui seraient ensemble, ce qui veut dire la majorité des députés seraient, ministres seraient ensemble. Donc au final, on a un parti qui a été désavoué aux européennes, qui a été désavoué aux élections législatives anticipées à cause de son propre président, et on voit au final qu'il reste majoritaire dans un gouvernement. Donc rien ne change. Rien ne change. Et donc, on dit aux Français qui se sont mobilisés massivement, c'est la mobilisation la plus haute depuis 1981, vous avez voté, c'est bien, mais on n'en prend pas compte. En fait, vous avez voté pour rien, parce que rien ne change. Et donc, qu'est-ce qu'on va créer avec ça? On va créer de l'abstention, et en fait, on va juste permettre, petit à petit, à l'extrême droite de monter, et un jour de gagner. Et après, bon, moi, ça m'étonne pas, hein, c'est ce que fait Emmanuel Macron depuis qu'il est élu. C'est jouer avec l'extrême droite jusqu'au moment où, en fait, c'est la République qui va brûler. Et voilà ce qu'il est en train de faire M. Macron. Alors après, on pourrait discuter de tout ce qu'on pourrait faire dans cette loi pour le budget, pour comment monter ce budget. Je suis sûr qu'il y a plein de manières qui ne seront pas utilisé par ce gouvernement, parce que quand on voit la composition du gouvernement, ne serait-ce sans même les noms, hein, mais ne serait-ce qu'avec les partis, je ne pense pas qu'il va y avoir de taxation des super-profits, je ne pense pas qu'il va y avoir de justice fiscale envers les plus aisés, etc. Bon, alors ça reste à voir, et on pourra d'ailleurs développer après des mesures qui pourraient être,
qui
pourraient être envisagées, mais qui ne le seront pas par ce gouvernement, je pense.
Alors, Gabriel Robin, après les deux premières interventions de Guillaume Agulot et Thibault Casal, vous, comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous pensez de ce décalage, par exemple, de la date à laquelle le budget sera présenté?
Je pense que c'est du détail, très honnêtement. C'est pas ce qui importe. Il y a aussi un cas de force majeure ou d'état d'exception. Ça existe dans la théorie du droit public. C'est même très classique depuis au moins un siècle. Effectivement, le délai et le résultat des dernières élections nous a conduit à décaler d'une semaine. Bon, pour moi, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est sur l'élaboration du budget, sur le sens qu'on va donner à ce budget. Il est de fait, il me semble à peu près certain, qu'Emmanuel Macron ne voulait pas même nommer temporairement une première ministre issue du nouveau Front Populaire de ce cartel électoral, parce qu'ils ne voulaient pas que ces gens-là gouvernent par décret. Et c'est ce qu'ils avaient prévu de faire, et ils l'ont annoncé d'ailleurs, c'est stratégiquement un peu malhabile, puisqu'ils ont dévoilé leur carte à Emmanuel Macron, qui a pris la décision de nommer un gouvernement, un premier ministre de droite, pour un gouvernement qui sera de droite, et qui mènera, à mon avis, très certainement une politique de droite, soyons honnêtes. Les sept ensembles qui sont prévus, qu'a annoncé Gabriel Attal, sont, je crois, dans leur ultra-majorité, voire 6 sur 7, issus de LR. Donc ce sont en fait des républicains maquillés en macronistes pour donner l'impression d'un gouvernement qui serait pluriel. Donc ça, c'est une première chose. Ce gouvernement, il tient aussi avec la bonne volonté du Rassemblement National, puisqu'il a été négocié très explicitement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, puisqu'elle a réussi quand même à avoir la tête et de Bernard Cazeneuve et de Xavier Bertrand. Donc il tient à son bon vouloir. Si d'aventure elle voulait censurer aux côtés peut-être de la gauche plus tard, elle le pourrait. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a compris très bien qu'il y a un équilibre entre trois blocs, et que comme les deux, le bloc de gauche et le bloc RN, ne s'entendront pas et ne voudront pas voter ensemble sur la plupart des sujets, ben, en réalité, il peut... avec le centre gouverné, avec le parti charnière, comme sous la 4ème République, et le parti charnière, ce sont les Républicains, qui sont quelque part entre Ensemble et le Rassemblement National. Donc il a fait le choix d'un tropisme d'extrogir, c'est-à-dire vers la droite, qui me semble assez clair. Pourquoi ? À mon avis, c'est parce que la procédure qui est lancée par la Commission européenne contre la France de déficit excessif effraie le gouvernement et effraie le président de la République. La France a été dispendieuse pendant 7 ans. Alors bon, il y a eu des cas aussi de force majeure qui peuvent expliquer une partie de cette dérive. Mais je pense que ça ne, ils ne l'expliquent pas à eux seuls. On ne va pas faire porter au Covid le chapeau de la dégradation des comptes publics, puisqu'en fait, cette dégradation, elle est très ancienne.
Elle est amorcée avant, oui.
Ben, bien sûr. En fait, ça fait depuis Giscard, la dégradation des comptes publics est continue en France. La réalité est là, c'est-à-dire qu'on paye 40 ans de dégradation totale.
Même 50, là.
Parce que... même 50. Donc ça, c'est... on arrive en réalité en bout de course de tout ça. Je vais vous donner quand même quelques chiffres. 110% d'endettement par rapport au PIB en 2024. Si on poursuit la course, c'est 127% en 2027. 3 800 milliards d'euros de dette. Ça veut dire qu'on doit rembourser chaque année 80 milliards d'euros de dette. Et en plus de ça, contrairement aux Japonais, une grande majorité de la dette française n'est pas détenue
par les épargnants français.
Les Japonais ont une
c'est
dette.
C'est la grande différence.
Ouais, ont une dette beaucoup
plus endettée
forte
que nous. Mais
il y a d'autres pays qui sont plus endettés que nous. Mais nous, c'est pas des.
Plus de la moitié des investisseurs. De la dette est tenue par 50%
et en plus
par des investisseurs étrangers.
Les quelques réussites qu'on peut mettre au crédit de l'industrie française ces dernières années, vraiment, c'est de la niche. C'est Dassault qui a réussi quelques exportations, etc. Mais si vous regardez la balance commerciale française, elle est très largement déficitaire. Et comparez-la avec celle de l'Italie, qui, elle, est excédentaire. On se moque souvent des Italiens. Mais depuis 4-5 ans, il y a un redressement depuis le gouvernement Draghi. Et c'est là où je vais finir mon raisonnement. C'est que moi, j'ai l'impression que Michel Barnier, c'est un petit peu le Mario Draghi d'Emmanuel Macron, qui va s'abriter derrière lui, parce qu'Emmanuel Macron est déjà très impopulaire. Et il a peur, en fait, d'une politique d'austérité, c'est-à-dire une politique qui coupe les dépenses, et il nomme Michel Barnier pour faire du Draghi en France.
Pour faire le sale boulot, vous voulez dire.
Oui, pour relancer la machine industrielle, etc., et diminuer la dette, parce que la réalité, c'est que vous avez deux choix sur la dette. Soit vous diminuez les dépenses, soit vous augmentez les impôts. Bon, mais comme on est à un taux d'impôt...
Voilà. On peut faire les deux.
On peut faire les deux, mais
justement, on va en parler de ça, c'est intéressant.
Mais on ne peut pas augmenter tous les impôts, en fait. On ne peut pas augmenter l'assiette globale, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on prendrait le risque aussi de ne plus prélever. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une assiette de fiscalité qui est tellement élevée qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à y échapper. La réalité est là. Prenez un pays comme l'Irlande, et d'ailleurs je vous conseille de lire l'interview très intéressante qui a été donnée par Dan O'Brien, qui est un économiste irlandais. Alors l'Irlande, le miracle économique irlandais, il est souvent critiqué parce qu'on dit oui, bah, c'est un hub pour les grandes entreprises, etc. C'est du dumping fiscal et tout. Il y a une part de vérité. Mais en même temps, l'Irlande, c'est l'un des rares pays, c'est l'un des deux seuls pays en Europe qui a un budget excédentaire. Et qui y arrivent. Ils ne l'ont pas fait en augmentant, en tapant sur la fiscalité. Moi, je suis chef d'entreprise, je peux vous dire qu'on a une pression fiscale, entre tout, hein, si je prends l'ensemble, qui est vraiment très forte en France. C'est pas une fiscalité qui est neutre. Hein. La fiscalité française, elle est très lourde, y compris sur les grands groupes qui, eux, en revanche, et ça, je vais l'accorder à beaucoup de gens de gauche, ont les capacités, les moyens juridiques de personnel de mettre en place en fait, des schémas fiscaux pour diminuer leur assiette fiscale. Ce que le patron de PME ou de petite entreprise...
Et on ne peut pas faire de l'optimisation fiscale comme ça.
Il a un expert comptable, commissaire aux comptes, ou à la rigueur, quand c'est une boîte pas mal, il va avoir un très bon avocat fiscaliste qui va réussir à le débrouiller un peu, mais on n'arrivera pas à ce niveau. Puis en plus de ça, eux, il y a quand même aussi... Ils réinjectent, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de mécanismes. On l'a vu avec Notre-Dame de Paris. Quand Bernard Arnault et François Pinault donnent 300 millions d'euros... C'est parce qu'aussi, fiscalement, ça peut les avantager. Mais ça apporte aussi à la société, parce que ça aurait pu être pris sur l'argent public, tout ça. Bon, c'est du mécénat, c'est pas de l'argent public. Donc voilà, ça c'est le premier
truc. Sauf qu'ils défiscalisent en passant.
Et le deuxième sujet, et Macron l'a très bien compris, c'est pour ça en fait qu'il s'appuie très concrètement sur le Rassemblement National, en réalité, ou sur son électorat, ou du moins qu'il tente de le séduire. Ça, je pense que ça va être difficile. C'est le régalien, et d'ailleurs, on en parlait hors antenne, il y a quelques noms qui sortent. S'il est confirmé qu'une personnalité comme celle de Laurent Wauquiez est envisagée au ministère de l'Intérieur, c'est un signal fort qui est donné sur ces sujets-là de continuité d'une politique qui serait, à mon avis, plutôt placée sous l'angle de la répression et du contrôle des flux migratoires, mais d'ailleurs, encore une fois, à l'italienne. Il y a vraiment quelque chose... Mélanie Darmanin l'a critiqué, mais la politique qu'elle est en train de mener, c'est 60% de réduction des entrées d'immigrés clandestins. En revanche, il y a une augmentation sensible de l'immigration légale, temporaire en fait, dans des secteurs sensibles et en crise, restauration, agriculture, etc. Je pense que nous, on se dirige en fait vers une politique comme ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de rejoindre la normale européenne.
Alors, On va revenir à notre sujet de l'élaboration du budget. Donc, vous l'avez dit, Guillaume Agulot, il y a plusieurs possibilités pour faire face à cette situation. Ou on augmente les impôts, on augmente les recettes, donc ça ne peut passer que par l'augmentation des impôts, de certaines taxes. Ou on essaye de faire des dépenses, des économies, et de faire des coupes dans les dépenses. On peut faire les deux, bien sûr. Oui, qu'est-ce que vous imaginez, vous ?
Et si on commençait déjà par appliquer les lois ? Ça serait peut-être une bonne chose.
Dans beaucoup de domaines, il faut appliquer les lois.
Mais par exemple, en matière fiscale, par exemple, si on appliquait les lois pour le recouvrement des droits de succession, premièrement, ça serait déjà quand même quelque chose qui serait assez intéressant. Il y aurait également une possibilité d'organiser effectivement la chasse à la fraude. Alors on a bien compris hein, depuis quelques années que il y a une vraie politique pour lutter contre la fraude aux allocations sociales qui sont touchées indûment. Et si elles sont touchées indûment, elles ne doivent pas l'être. Hein. Je suis le premier à dire qu'il faut appliquer la loi. C'est très très bien. Je ne suis pas convaincu qu'on mette la même
énergie,
la même volonté, les mêmes moyens, je n'en parle même pas, pour lutter contre les autres types de fraudes qui seraient issues, par exemple, effectivement, de grands groupes financiers ou industriels. On a évoqué qu'ils ont déjà des possibilités légales, mais en plus, ils ont des possibilités illégales parce qu'on les laisse appliquer ces choses-là. Donc ça permettra... Alors ça ne va pas tout résoudre. Peut-être que ça pourrait déjà aussi commencer à résoudre quelque chose qui est important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un budget qui tienne, recettes, dépenses, si vous n'avez pas la confiance des personnes sur lesquelles vous faites peser les dépenses, enfin que vous prenez les recettes, et sur lesquelles, vis-à-vis desquelles vous...
Vous voulez faire des économies.
Vous voulez faire des économies, mais aussi vis-à-vis desquelles vous distribuez des dépenses, peut-être un petit peu moins, parce qu'il va peut-être falloir effectivement un petit peu moins. Ça s'appelle... L'égalité fiscale, j'y crois pas, ça s'appelle à minima l'équité fiscale. L'équité fiscale, c'est le premier truc, la première chose que Macron a fait sauter avec la flat tax. C'est la première des mesures qu'il a prises quand il est devenu président de la République. Effectivement, ça a été très bien dit juste avant, vu la composition et la tonalité du gouvernement, je ne suis pas convaincu qu'on va venir là. Alors j'ai dit qu'il fallait appliquer la loi, c'est une chose, peut-être aussi que l'idéal serait de revenir sur certaines choses qui ne sont pas marquées tellement du sceau de l'équité, y compris dans le monde de l'entreprise, ça je suis bien d'accord, pour bénéficier de ses capacités ou de ses facilités, effectivement il vaut mieux être Éric Trappier, PDG de Dassault, plutôt qu'effectivement responsable ou dirigeant d'une PME, PMI. Ça c'est une évidence, tout le monde le sait, c'est-à-dire cette inéquité elle est également là, dans ce qu'on appelle la production de richesse. Bon. Parce que vous ne construisez pas un budget sans prendre en compte qu'à la base, un budget ne peut se faire qu'à partir de richesses. Et on l'a évoqué, les dettes, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. À un moment donné, il va bien falloir arrêter. Les trajectoires sont telles, et on a beau nous dire des choses, rien ne s'arrête, et ça a même plutôt tendance à augmenter sur les 15 dernières années. La courbe de progression a tendance à augmenter. J'espère que ça ne va pas passer à de l'exponentiel. Donc en fait, sans création de richesses, il ne peut pas y avoir de prélèvement. Sans prélèvement, il ne peut pas y avoir de politique publique. À un moment donné, l'économie, c'est basique et c'est simple. Comment on fait pour rendre un pays compétitif sur sa production de richesses, mais également compétitif sans rentrer dans une compétitivité à l'extrême? Et alors, vous avez cité le cas de l'Irlande. L'Irlande va très bien.
Oui, mais alors, c'est une
Je ne suis pas convaincu que les Irlandais aillent bien. Si. C'est ça le problème.
Alors je vous dis, le PIB par habitant irlandais, c'est deux fois le PIB de la France aujourd'hui.
D'accord.
En 15 ans.
Voilà.
C'est deux fois le PIB par habitant de la France. Français s'appauvrissent.
On est sur de la statistique.
On devient pauvre.
On est effectivement sur de la statistique. On a exactement les mêmes choses. Le PIB en Grèce a prodigieusement augmenté par habitant.
Oui, mais n'est pas
la fin de la France. On est bien d'accord. Mais par rapport à la situation de 2008, le PIB par habitant en Grèce a prodigieusement augmenté. La pauvreté en Grèce n'a jamais été à ce niveau-là, même au pire de la crise.
Mais nous, en France, si vous voulez, la richesse n'augmente pas, mais la pauvreté augmente. Il y a ça aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on est dans le cercle...
Non,
la
richesse augmente.
La richesse globale des entreprises cotées au CAC 40. Mais la cotation au CAC 40, c'est une évaluation. C'est une évaluation de la confiance des marchés dans les boîtes.
On est bien d'accord.
C'est pas... Bon, la richesse...
C'est pas ce qu'il y a dans les personnes dans la poche.
Je vais dire un truc sur la fraude, pour compléter. Sur la fraude, effectivement, il y a des gros qui fraudent. C'est pas forcément... Ils sont très contrôlés. Mais il y a aussi beaucoup, et c'est pas leur faute, il y a beaucoup de petits qui fraudent, d'artisans, d'agriculteurs, de commerçants qui fraudent énormément, pour une raison très simple. C'est que s'ils ne fraudent pas, ils ne gagnent pas d'argent. En fait, ils peuvent pas gagner d'argent, et il y a deux raisons à ça. Effectivement, la création de richesse, mais aussi la fiscalité qui les empêche de créer de la richesse. Puisque la réalité, parler à n'importe quel commerçant, n'importe quel agriculteur, n'importe quel artisan en France, s'il y a bien un sujet unanime, c'est les impôts. Qu'ils considèrent beaucoup trop les impôts, les charges fixes. C'est l'ensemble des dépenses, des postes des dépenses, et parmi lesquels la fiscalité pèse énormément. Et d'ailleurs, bon, je trouve par exemple qu'il y a eu des propositions qui étaient assez démagogiques, qui avaient été formulées par différents bords, notamment sur la TVA. Je ne suis pas du tout d'accord avec la baisse de la TVA qui a été proposée par certaines personnalités de gauche ou par certaines personnalités du Rassemblement National. Les deux. Du Rassemblement National. Et il y a eu beaucoup de mecs de LFI aussi qui en ont parlé. De la TVA. Alors que la TVA, et si on prend un raisonnement inversé, en fait, qui n'est pas du tout le raisonnement français. Malheureusement, on a un très mauvais raisonnement en fiscalité en France. La TVA, c'est l'impôt le plus juste, parce qu'en fait, il est dépensé à proportion de la consommation. Donc, en fait, c'est ça, on n'ose pas y toucher, parce que c'est démagogique, ça fait peur.
Juste un point, si on y touche sur certaines choses, par exemple, alors, c'est anecdotique. Financièrement, c'est pas neutre, quand même. Mais c'est anecdotique par rapport aux sommes globales, colossales qui sont brassées, ça, je suis d'accord. La TVA, moi, quand je vais faire le plein d'essence, je la paie plein fer.
Oui, oui.
Et c'est normal. Mmh. Quand on a un yacht et qu'on fait le plein de diesel à Cannes, on est exonéré de TVA. Quel moment et cette disposition fiscale qui a été créée pour la première fois en 2019 est maintenue année après année? À quel moment c'est valable sur les jets privés,
oui, alors,
à partir de tant de kilomètres par an. Je ne sais pas comment il les calcule, mais bon, très bien.
Je vais me faire l'avocat du diable. Je vais vous donner le raisonnement, mais je ne suis pas d'accord avec le raisonnement qui a présidé à cette décision. Mais le raisonnement, c'est de se dire, voilà, ça, si vous voulez, ces gens-là, en fait, dépenseront tellement par ailleurs, en fait, et injectent tellement d'argent, et c'est la vérité, qu'on s'y retrouve. Bon, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, je pense que c'est pas forcément un bon raisonnement. Après, c'est plus de l'ordre du symbole. C'est pour la capacité. Non mais.
Bref.
Non mais.
Non parce que.
Si vous regardez vraiment le taux de dépenses, en fait, de contribution d'un mec qui arrive avec un yacht à Cannes, en fait, ce qu'il va injecter dans l'économie française, c'est comme. Par exemple, le PSG
ou
le Qatar,
c'est pas un problème, c'est une question d'égalité.
Je suis pas d'accord.
L'affaire du PSG, en fait, on permet de frauder. Oui. En fait, on le fait légalement. Et alors, en plus, on le fait avec un ministre de la République. Et aujourd'hui, celui qui va gérer le cabinet du Premier ministre. Ce serait quand même entre 67 et 220 millions qu'on aurait du coup aidé au PSG. Sachant que le PSG, enfin, quand même, 220 millions, c'est ce qu'ils ont payé déjà pour Neymar. Donc, ils en ont même pas besoin. Mais en fait, c'est toujours, on va faire des cadeaux, même parce qu'ils vont rapporter. Oui, non, mais parce qu'ils vont rapporter tant, on va les exonérer là-dessus, alors qu'ils sont largement capables de le payer. Alors que par contre, les plus bafoyés, on les exonère sur rien et ils payent jusqu'à ce qu'ils puissent plus. Ça, c'est clair et net.
En fait,
c'est pas normal.
Il faut baisser le taux d'imposition global qui pèse en France. C'est-à-dire qu'on est le pays le plus taxé du monde. C'est pas. Là, j'exagère pas, c'est statistique, c'est prouvé. La France est le pays qui, au global, est le plus taxé au monde. Je sais pas si on se rend compte, quoi. Qui est le plus taxé au monde et qui s'appauvrit en parallèle. Et dont les.
Parce qu'on n'est pas les bonnes personnes.
Je pense qu'on n'a pas la bonne stratégie économique pour le pays, c'est tout.
Alors, vous pensez.
On n'a pas la bonne stratégie.
Est-ce qu'il y en a ici qui pensent qu'il faut taxer encore plus, qu'il faut augmenter les impôts, même si c'est ponctuel?
Parce que la nécessité nous oblige
aujourd'hui à trouver de nouvelles recettes et que. Ça serait une des pistes. Certains l'envisagent.
Alors, nous, il y avait quelque chose de simple, hein, par exemple, dans le programme du Nouveau Front Populaire. C'est que déjà, toute personne qui gagne moins de 4 000 euros par mois, elle allait soit payer moins d'impôts, soit ça bougeait pas. Donc déjà, ce qui est clair et net, c'est qu'on ne touche pas aux personnes les plus faibles. Déjà, on ne touche pas à les personnes les plus faibles. Et alors, au-delà des personnes les plus faibles, parce que quand même, quand on est à 4 000 euros par mois, il me semble que c'était sur le brut. Hein. Mais,
c'est pas la même chose, déjà.
Mais, ouais, non, mais d'accord. Sauf qu'en attendant, on est quand même la seule force politique qui proposait de faire ça. Et dans attendant, on ne perdait pas d'argent parce qu'on allait chercher chez ceux qui en ont besoin. Sachez quand même que quand... chez ceux qui en ont beaucoup, oui, pour ceux qui en ont besoin, pardon. Mais parce que quand on est à 4000 euros par mois, enfin moi qui suis enseignant par exemple, hein, 4000 euros par mois, c'est le double de mon salaire. Hein. Donc on est déjà sur beaucoup plus. Non, mais là, si on est sur le
cas... Si on parle sur du brut, c'est impossible que ce soit le double de votre salaire.
C'est pas le double de mon salaire, c'est 40% de... Enfin... Oui, enfin, on est bien sur mon salaire brut, parce il est à 2200.
Et puis brut,
il est à
2200 avec donc, les charges.
Non mais
tout,
d'accord, enfin, il est à 2200. C'est... Donc si on est sur chipoté sur 20% pour qu'on arrive à faire le double, d'accord. Mais par contre, tout ce qu'on voit, c'est que à côté de ça, on a une taxation des super profits qui pourrait ramener 10 à 20 milliards d'euros. Mais par contre, on veut pas le faire. Taxation unitaire des multinationales 18 milliards. Rénover l'ISF qui a été tapé par Macron dès qu'il est arrivé au pouvoir dès 2017, en sachant que du coup depuis 2017 on est quand même sur 60 milliards d'euros de réduction d'impôts avec tous ces cadeaux qu'on a laissé et qu'aujourd'hui en fait on a besoin de cet argent. Modifier les taxes sur l'héritage, là aussi à juste titre selon l'âge, mais moi je dis selon le revenu. Supprimer les niches fiscales inutiles et supprimer la flat tax. Déjà là-dessus on est déjà sur plus de 60 milliards d'euros. Déjà dire... là-dessus. Donc, non, dire... à un moment donné, et quand même le gouverneur de la Banque de France dit aujourd'hui qu'il faut, il faut revenir sur la baisse des impôts des plus aisés, quand même le gouverneur de la Banque de France le dit, à un moment donné, il va falloir quand même agir et faire ces choses-là. Et je ne pense pas que c'est avec les personnes dont on dit qu'ils seront ministres de l'économie ou dans le gouvernement actuel que ça va être fait.
Alors, voilà. Peut-être, mais si vous voulez... Par exemple, quand vous parlez de la taxation sur les successions. En France, il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, en fait, la France est tellement appauvrie et génère si peu de croissance que c'est pour beaucoup de Français le seul moyen d'accéder à la propriété. C'est-à-dire qu'ils attendent que leurs parents meurent pour pouvoir être propriétaires. Non, bien immobilier. Non, mais on en est là, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi, repenser toute la stratégie économique de la France et la rendre beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus performante, en fait, parce que si vous ne créez pas suffisamment de richesse, vous n'avez plus rien à distribuer. Et là, aujourd'hui, en fait, on a beau taxer, on n'arrive plus à distribuer. Donc ça veut dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne
parce
pas.
Parce qu'on ne taxe pas tant que ça, au final, certaines personnes non. qui pourraient rapporter.
Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va régler le problème. Non, mais vraiment, moi, j'aimerais bien, parce que ces questions d'éthique, d'équité et tout ça, je veux bien les admettre. Mais par exemple, vous parliez de la taxation sur les successions, moi il me semble beaucoup plus intéressant de taxer les méga-successions que de taxer les super-profits. C'est ce que font les États-Unis. Aux États-Unis, les successions des très riches, mais les successions des très riches aux États-Unis, les successions des Buffett et tout ça, sont beaucoup plus taxées qu'en France. Mm-hmm. C'est une erreur de croire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de fiscalité, tout ça, que c'est pas vrai. Il y a une fiscalité qui peut être forte aux États-Unis. Par contre, les profits, justement, ils ne les taxent pas. Ouais. Vous voyez, c'est alors, parce qu'en fait, il faut pas taxer la richesse qui se crée, et celle qui se transmet. Pourquoi pas, mais jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire que vous avez, il faut pas empêcher les gens non plus de devenir riches, parce qu'en fait, c'est un vieux proverbe russe qui était. Il me semble que c'est un proverbe russe d'avant la guerre civile russe, qui était quand les riches ont faim, les pauvres meurent. Et là, on va bientôt, je pense qu'on arrive progressivement là-dedans, parce qu'en plus de ça, on est en train de perdre, en fait, le tissu des classes moyennes supérieures de province. Il y a une vraie inégalité de développement territorial en France qui date pas d'aujourd'hui, qui date déjà à la Révolution, c'était le cas. En fait, on est tellement centralisé, d'ailleurs, là, tout le discours qu'on tient, il est comme ça, il est étatiste et tout, forcené. Prenez l'Italie du Nord, il y a un tissu de PME qui est incroyable, qu'on n'a pas du tout en France. Vous avez
eux, ils ont gardé une industrie. En plus,
mais oui. Prenez l'Espagne qui avant avait le type de développement de la France. Vous avez, regardez les cartes économiques de l'Espagne d'avant Révolution. Il n'y a que la vieille Castille en fait, ce qui est au-dessus de Madrid, quoi, qui est riche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus en étoile. Vous avez la Catalogne, etc. Moi, j'aimerais et le développement par métropole. En fait, on reproduit le schéma à l'échelle des régions avec les grandes régions. C'est-à-dire, vous avez Toulouse. Qui concentre la plupart des richesses de l'Occitanie. Et puis, aller faire un tour à Decazeville, j'y étais récemment. C'est Decazeville, je peux vous dire, J'ai rarement vu un endroit aussi miséreux. Moi, je suis à d'origine. C'est statistiquement, il y a des départements en France qui sont plus pauvres qu'en Pologne, qui sont au niveau de certains départements en Ukraine. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, en fait. Il y a un vrai problème.
Bon, il faut qu'on clore cette discussion. Guillaume Agulot, de toute façon, bon, le nouveau Front populaire n'a pas le poste de Premier ministre, donc son programme ne sera pas appliqué. Qu'est-ce qui reste? Vous pensez qu'on va avoir un mix hausse des impôts pour certains et puis des coupes budgétaires dans certains secteurs?
Je pense surtout que pour ce premier budget, on va avoir aucune mesure phare, aucune mesure principale, qu'on va avoir une reconduction quasiment à l'identique, avec un discours nous disant on n'a pas eu le temps de le faire, de le préparer, et on verra ça l'an prochain, et qu'en réalité ça va fonctionner au fur et à mesure, possiblement d'ailleurs par décret, parce que j'ai entendu effectivement qu'il y avait une force politique qui avait annoncé qu'elle allait le faire, l'autre force politique ne l'a pas dit, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas.
C'est une possibilité de toute façon. Voilà, alors toujours est-il que pour l'instant nous n'avons pas encore de gouvernement, même si il semblerait que ça pourrait être annoncé assez rapidement. Maintenant, il y a des noms qui commencent à circuler, ce qui n'était pas le cas auparavant. On aura sans doute une réponse au plus tard en début de semaine.
Je peux vous donner ce que j'ai.
Non. On verra ça. On verra ça lorsque ce sera officiel. On va faire la petite pause habituelle avant de reprendre notre discussion lors d'un deuxième débat dans une vingtaine de secondes. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct en compagnie de mes trois invités, Guillaume Agulot, Thibaut Casal et Gabriel Robin. Comme vous le savez sans doute, si vous suivez l'actualité politique, François Ruffin a lancé un pavé dans la mare de la France insoumise et par ricochet dans celle du Nouveau Front populaire après une interview sur BFM TV où il dénonçait le fonctionnement interne de LFI, parti au sein duquel la liberté de parole, selon lui, n'existerait pas et où l'on vivrait dans la crainte de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches, parti où l'on ferait des campagnes aux faciès lors des tractages sur la voie publique en distribuant des tracts différents selon l'origine de la personne à qui l'on s'adresse. Ces déclarations ont valu aux députés de la Somme des réactions violentes, parfois insultantes ou menaçantes de la part d'élus et de membres de la France insoumise. Le week-end dernier, François Ruffin a eu droit à un accueil très houleux et à des huées lors de sa venue à la fête de l'UMA. Avez-vous été étonné par les déclarations de François Ruffin et par les réactions qu'elles ont suscitées? Les conséquences de cet épisode politique restant difficiles à évaluer pour l'instant. Thibaut Casal, vous n'êtes pas à la France insoumise, mais vous êtes tout de même soutien du Nouveau Front populaire auquel appartient la France insoumise. Alors qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Alors déjà, pour répondre à la question, qu'est-ce que j'ai pensé des paroles de François Ruffin? Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement grave ce qu'il a dit. C'est extrêmement grave dans le sens où s'il a vraiment fait une campagne au faciès, c'est très très grave pour quelqu'un qui se dit de gauche. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose, pour moi, de profondément immoral. Et moi, personnellement, quand j'ai fait campagne que ce soit des candidats insoumis, que ce soit des candidats socialistes ou candidats de Verts en Haute-Garonne, j'ai jamais eu deux tracts à donner, un en fonction de la couleur de peau d'une personne. Non. Il y avait des personnes qui avaient mis, parce que du coup la discussion c'est, s'il avait quelqu'un, apparemment quand il avait quelqu'un qui avait une couleur de peau noire ou quelqu'un qui était d'origine maghrébine, il lui donnait un tract avec la tête de Mélenchon. Et sinon il lui donnait un tract où il n'y était pas. Bon, ben nous ici localement, ce que je peux dire c'est qu'il y a des insoumis qui ont fait le choix d'avoir la tête de Jean-Luc Mélenchon sur leur tract, c'est leur choix. Les socialistes et écologistes ne l'ont pas fait. Durant le second tour, Agathe Roby et Anne Stambach, par exemple, Anne Stambach Terre Noire, en Haute-Garonne, ont décidé de ne pas mettre la tête de Jean-Luc Mélenchon sur tout leur tract. Donc il n'y avait pas un tract selon le quartier, qu'on soit d'accord. Donc voilà, moi je trouve ça grave s'il a fait ça. Et par contre, ce que je vais dire aussi, c'est que les réactions de députés, notamment de députés insoumis, parce que bon, moi, les réactions sur Twitter où des fois on ne sait pas qui réagit, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand c'est un député de la République et un député du Nouveau Front populaire qui insulte et voire menace François Ruffin, c'est très grave. Ça aussi, c'est très grave. Et je pense que ces députés devraient vraiment de temps en temps réfléchir avant d'ouvrir Twitter Et ils sont pas les seuls, hein. C'est pas réservé que à des députés insoumis, hein, ce que je suis en train de dire. Mais moi personnellement, je pense que Ruffin a fait une erreur déjà quand il faisait ça, quand il a fait ça durant cette campagne. Ça déjà, c'est une très grosse erreur et c'est quelque chose de grave. Et il a fait une grosse erreur politique en le disant à la télé. Aujourd'hui, en fait, on va se retrouver avec des personnes d'extrême droite qui vont nous rétorquer que, en fait, nous, on fait des campagnes aux faciès
et
que c'est nous les racistes, en fait. Mais là, en fait, on, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est, alors, il y a 3 mois, il y a 4 mois, on était les antisémites. Maintenant, on va devenir les racistes à cause de pratiques ou de paroles comme celle de François Ruffin, là. Donc, moi, je trouve ça assez grave. Mais par contre, ça laisse pas la possibilité à des députés de tourner ça au pugilat. Et à la fête de l'UMA, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à la fin, alors moi j'y étais pas, mais à la fin de la table ronde dans laquelle il participait, ouais. Il a fini par être très applaudi. Et quand justement il a mis en exergue des choses très intéressantes, parce que François Ruffin a quand même un combat à gauche que peu de personnes essayent de montrer, c'est notamment le combat pour avoir de nouveau les classes populaires qui ne votent plus l'extrême droite, parce que de toute façon c'est pas l'extrême droite qui va aider ces classes populaires, et donc essayer de ravoir ce vote ouvrier, essayer de faire en sorte que dans les campagnes aussi la gauche fasse certains scores, parce qu'aujourd'hui on est totalement absent des campagnes, mais on est absent au niveau des scores, mais il faut faire aussi notre autocritique, on y est absent. Même en tant que militantisme, il y a très peu de militantisme de gauche dans ces campagnes. Et quand il a dit ça, il a eu quand même la foule aussi avec lui. Alors c'est vrai qu'au tout début, voilà, il a été reçu avec les Siamotuti antifascisti, mais en attendant, à la fin, il a été applaudi. Parce que je pense qu'il y a eu une mésentente et surtout peut-être certains qui ont essayé d'instrumentaliser ça pour attaquer François Ruffin, mais ça n'a pas marché quoi, au final. Donc voilà.
Gabriel Robin.
Alors chronologiquement, il me semble que c'est d'abord François Ruffin qui a dénoncé certaines pratiques de ses camarades de la France Insoumise, qui après ont rétorqué ce que vous racontez sur le tractage ciblé, qui est une pratique vieille comme la politique en fait.
Non, mais c'est lui qui l'a dit, qui l'a fait ce tractage
oui.
ciblé.
Non,
mais
oui, enfin, il n'a pas dit qu'il n'y avait que lui qui faisait ça.
Il a dit que tout le monde le fait.
C'était un fonctionnement
enfin,
entre guillemets.
Tout le monde le fait. Bon, normal. Voilà. Non, déjà sur 4 députés, sur 5 candidats insoumis en Haute-Garonne, personne ne l'a fait. Hein. Donc
en
tout
cas,
je fais ça. Tout le monde.
Il
n'a
pas dit qu'il était général. En tout cas, qu'il était
préconisé. Le tractage ciblé est quelque chose quand même d'une pratique très ancienne en politique. Et ça ne concerne pas d'ailleurs que l'ethnie, mais ça peut
la classe sociale.
Oui, mais aussi des groupes en fait d'intérêt. Par exemple, vous allez concevoir des tracts spécifiquement pour les chasseurs, spécifiquement pour les professeurs, etc. Cibler des quartiers où vivent les gendarmes en envoyant des choses qui les concernent un peu plus. Bon, il me semble que c'est assez classique. C'est la présentation qui a été faite, c'est souvent le cas de nos jours, qui est hystérisée, quoi. Et d'ailleurs, en fait, cette affaire, elle est totalement hystérisée. C'était amusant de voir les chants Siamotuti antifascisti qui étaient destinés à François Ruffin, qui a fait Merci patron, il me semble que c'est quand même oui. un truc plutôt d'inspiration marxiste. Alors que de l'autre côté, en même temps, vous aviez Dominique de Villepin qui était applaudi à tout rompre par les militants insoumis.
Ça aurait pu être le sujet aussi.
Moi, je sais pas, moi, ça m'amuse assez. Quant à François Ruffin, il a dit aussi dans son passage que Jean-Luc Mélenchon avait des propos assez discourtois sur les habitants d'Hénin-Beaumont, disant qu'ils étaient tous obèses, qu'ils puaient. Alors, j'ai plus toute la citation en tête. Mais bon, voilà, en gros, il voulait signifier que Jean-Luc Mélenchon et ses proches, en fait, son cercle proche d'aujourd'hui, actuel...
Méprise des pauvres.
Non, pas méprise des pauvres. Moi, je le vois pas comme ça. Franchement, j'en ai marre, en fait, de tout ce qui est hystérique et de cette espèce de chape de plomb, on peut rien dire, etc. Effectivement, il y a des endroits en France qui sont plus ou moins miséreux, où les gens sont plus ou moins cultivés. Je pense qu'il voulait signifier surtout que Jean-Luc Mélenchon avait fait le deuil de certaines catégories populaires française de souche, alors il faut pas le dire, mais c'est la vérité, parce que il considère en fait que ces gens-là ne vont pas voter pour lui. Voilà. Et
c'est
donc,
un électorat perdu
c'est
pour
ça
la gauche.
Qu'il voulait signifier
c'est pas la peine
que c'est un électorat perdu pour la gauche. Bon, il a peut-être oublié qu'en 2017, il faisait concurrence à Marine Le Pen et qu'il avait été lancé, en fait, le tout début de ce parti-là. Moi, j'ai pas la mémoire courte. C'était plutôt sur un ton, en fait, populiste de gauche.
Oui, oui.
Et à destination, justement, de ce qu'on appelait, à l'époque, c'était un terme en vogue, la France périphérique. inspiré par tous les auteurs comme Christopher Lasch aux États-Unis, Guy Lui en France. Voilà. Donc, Mélenchon, en fait, il varie au gré du vent. Et effectivement, il a constaté qu'aux dernières élections législatives, il fait, c'est le parti qui fait le plus d'élections dès le premier tour avec le Rassemblement national. Et les cartes, en fait, elles sont en miroir, quoi. C'est-à-dire que là où il est élu, où les candidats LFI sont élus au premier tour, soit c'est les hypercentres, en fait, avec des classes intellectuelles, mais paupérisées, en fait, paupérisées, des profs, des intermittents du spectacle, des choses comme ça, etc., qui forment une partie du public de la France Insoumise. Non, mais je schématise, mais voilà. Soit des gens dans les banlieues, avec des quartiers, avec 80% de personnes d'origine non européenne, où là ils cartonnent parce qu'ils ont beaucoup insisté, notamment sur les questions comme la Palestine, etc., sur le sud global, ce genre de choses. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui ont fait que Dominique Villepin avait été très applaudi. D'ailleurs, avec une partie d'un discours qui était en partie juste, hein, parce que moi j'ai un regard assez modéré là aussi sur cette question israélo-palestinienne. Ce que je regrette de plusieurs côtés d'ailleurs, et notamment de celui de la France Insoumise ou de quelqu'un comme Dominique de Villepin, c'est que c'est instrumentalisé. On voit bien quand même la manœuvre, quoi. On voit bien le coup venir, quoi. Une forme de déséquilibre. Je ne les ai pas entendus parler autant de l'Ukraine, par exemple, alors que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai des amis qui sont actuellement reporters en Ukraine, qui prennent beaucoup de risques. Et il y a aussi des bombardements contre des populations civiles. Bon, je n'ai pas beaucoup entendu la France Insoumise parler de ça. Si on est parfaitement honnête.
Le nouveau Front Populaire, oui. Alors,
le nouveau Front Populaire, ouais, Raphaël Glucksmann, parce que c'est un sujet qu'il connaît bien, mais à part lui, c'est vrai que sur ce sujet-là, je l'ai trouvé.
Les écologistes aussi, on a beaucoup parlé.
Si, sur ce sujet-là, vous voyez, moi, je ferais, puisqu'on parle du gouvernement de l'Union nationale, sur la question des affaires étrangères, et pourtant, je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup d'autres choses, notamment les politiques intérieures, même la politique migratoire et tout, mais sur la question des affaires étrangères, je trouve que Raphaël Glucksmann est quelqu'un d'honorable, qui me semble honnête et avoir un point de vue qui d'ailleurs n'est pas trop incompatible avec ce qui va se dessiner en prochain gouvernement, puisque Arnaud Danjean, qui est le conseiller de Barnier, c'est pas si éloigné que ça, en fait, et Benjamin Haddad qui pourrait venir, c'est assez proche quand même de l'orientation de Glucksmann sur ces questions-là. Mais sur François Ruffin, moi c'est vrai que je suis pas surpris, en fait, parce que on le sentait poindre, tout ça. On le sentait venir. Il y a une tension qui s'est aggravée. En revanche, juste pour finir, et c'était le dernier point, sur la méthode, et les gens qui ont fait un jour de la politique ou qui ont travaillé en entreprise, on peut reprocher à François Ruffin d'être assez malhabile. Parce que, en fait, quelqu'un de malin, il fait sortir ça par le canard enchaîné ou je sais pas quoi, il se débrouille. Voilà. Il a été quand même Franco de Port, si l'on peut
certains
dire.
Certains lui reprochent aussi d'avoir fait cette sortie après avoir été élu.
C'est ce que lui reprochent aussi ses camarades de parti. Bon. Quoi.
Ouais. Guillaume Agulot, vous suivez de près ce qui se passe à la France Insoumise.
Oui, de très très près. Et plus je suis ça et plus nous nous félicitons collectivement au Printemps républicain de ne surtout pas être allés nous embarquer dans cette espèce de galères percées du NFP qui est totalement enchaîné, arrimé, contrôlé, manipulé, on pourra mettre tous les épithètes qu'on voudra, par LFI. Ça dit quoi ? La séquence, elle dit quoi ? Elle dit plusieurs choses. Premièrement, mais ça tout le monde le savait, c'est que LFI, il va falloir maintenant aussi un petit peu se le dire, un peu au niveau de ses militants, mais ça, il y en a dans tous les partis particulièrement extrémistes, mais bon, c'est pas nouveau, mais aussi au niveau de ses responsables et de ses dirigeants, LFI, c'est un parti de nervis. Le mot est peut-être fort, mais c'est ce que c'est. LFI, aujourd'hui, est un parti qui n'aime pas la démocratie, qui n'aime pas la contestation, qui n'aime pas l'opposition, qui n'aime pas, qui ne supporte pas que d'autres, fussent d'un iota, pense autrement que ce que le grand chef, le leader minimo, a répondu. C'est pas la première purge. Hein.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Il y a des précédents, comme disait l'autre. Hein.
Comment s'appelait là cette femme?
On a Raquel Garrido.
Garrido, mais même bien avant. Corbière, bien avant. Simonnet récemment.
C'est l'économiste de Mélenchon. En 2019. Là.
Claire Nouvion.
Nouvion. Avant, il y avait une autre.
Oui, mais qui était sa fille préférée. Quoi,
et on va pouvoir comme ça remonter autant qu'on voudra. C'est la méthode. elle a déjà été utilisée par des partis ou des mouvements extrêmes, dits de gauche extrêmes.
Dans d'autres régimes.
Dans d'autres régimes, très clairement.
Et en d'autres temps.
Et oui. C'est la désignation publique à l'exécution publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la typologie des réactions des autres membres et partenaires à l'intérieur de ce NFP. Ouh là là, c'est pas bien. Voilà ce qu'on entend. Ouh là là, c'est pas bien.
Ils sont un peu lâches.
Ils sont pas un peu lâches. Et je pense même que ça va au-delà. Parce que pendant longtemps, on s'est dit, mais quand même, avec ce qui se passe à chaque fois, à chaque intervention, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une mise au point très claire en fixant une ligne rouge et en disant la prochaine fois, elle sera, la prochaine fois qu'elle est dépassée, c'est fini. Ne serait-ce que ça. Et je parle de n'importe quel parti politique au sein de ce NFP ou n'importe quel leader au sein de ce NFP. Eh bien non, ça ne se fait pas. À chaque fois, à chaque outrance, à chaque menace, parce qu'effectivement, on n'est pas simplement dans du propos, on est dans de la menace, clairement. À chaque fois, tout ce qu'on a, c'est « oulala, c'est pas bien ». Pendant longtemps, on s'est dit « c'est de la lâcheté ». Puis on s'est dit, bon, c'est la volonté de retrouver un poste. Donc c'est du calcul, etc.
C'est de l'intérêt,
etc. Et puis c'était du manque de courage. Je crois que maintenant, tous ces stades-là sont dépassés et qu'on est exclusivement sur la peur. Ils ont tous la trouille au sein de ce NFP. Ils ont tous la trouille de Mélenchon. Mais c'est une trouille viscérale. Et c'est une trouille viscérale qui est en plus, je pense, aggravé, augmenté par le fait qu'ils savent, tous autant qu'ils sont, que leur tour viendra.
Oui, oui, oui.
Que ça va leur tomber dessus.
C'est lui qui va gagner.
En espérant que ça ne soit pas eux les prochains. S'il vous plaît, monsieur le bourreau, encore une petite minute.
Il a même,
c'est ça, leur stratégie. Même,
c'est comme en classe, quand tout le monde regarde son cahier en disant, pourvu que ça ne va pas tomber sur, ça ne tombe pas sur moi.
De ne pas en avoir, de refuser de couper les ponts de ce qui est déjà de fait coupé. LFI ne veut pas des partenaires du NFP. LFI ne veut pas co-construire des programmes.
Ils sont sur une stratégie léniniste, en fait.
Ils n'ont quand vous voyez, exactement.
C'est dans Que faire Lénine, en fait, je sais pas si vous
c'est
avez
exactement
lu,
ça.
Le Que faire de Lénine, en fait, qui est un traité de sciences politiques, en fait, de prise de pouvoir, en fait, révolutionnaire, de stratégie. Il explique bien, en fait, qu'il faut détruire les partis sociaux-démocrates, les partis bourgeois, dans toute l'Europe. Il le dit explicitement, et c'est ce que veut faire.
Et c'est la stratégie en fait. Aujourd'hui qui est
sans exagérer, moi, j'y vois une filiation lénino-stalinienne.
C'est une stratégie aujourd'hui qui est mise en place par Mélenchon. Il sait parfaitement qui il envoie. Parce qu'on a vu effectivement quelques élus LFI qui sortent du lot, si j'ose m'exprimer.
Mais Delogus, c'est fait exprès. C'est un mec qui.
Mais si je peux me permettre, quand même, juste pour finir. Ouais. Tous les élus LFI, au plan national, je parle bien des députés, hein, tous les élus LFI, on peut en penser ce qu'on veut, ils ne sont pas tous comme Delogu.
Non.
Loin s'en faut. Mais il n'y a que qu'on entend. Il n'y a que qui y vont.
En avant dans les médias.
Il n'y a que qui sont désignés pour procéder à cette stratégie. Alors on a dit de brutalisation, de
Mathilde Panot aussi qui est assez brutal.
Là, c'est de l'intimidation.
C'est de l'intimidation, c'est de la menace. Et très clairement, ça n'a qu'un seul but. C'est d'imposer la stratégie de terreur absolue. La preuve, ça marche, puisqu'on entend « oulala, c'est pas bien ». Sur le cas typique, précis de Mélenchon, le seul qui réagit, le seul, de Ruffin, pardon, le seul qui réagit, c'est le patron du PC.
Roussel.
Pour une raison, j'allais dire un peu simple, parce que ça aussi, on l'oublie. LFI se permet de faire ça, pas chez eux. La fête de l'UMA, c'est pas la fête à la vie, c'est la fête du PC.
Mais ils de s'en ça, foutent. Roussel a perdu pour les raisons que dénonce Ruffin.
Mais ils s'en fichent totalement, les filles. Ils avaient gagné ils par sont miracle, en plus. Partout chez eux. Ils ont cette stratégie du piétinement, de la destruction absolue. Ils sont partout chez eux. Ils ne reconnaissent aucune autre légitimité ou aucun autre sens ou aucune autre acceptation d'aucun de leurs soi-disant partenaires qui ne sont plus pardon, ça lasse, mais que leur paillasson.
Ça lasse beaucoup les Français quand même.
Pas. Oui, alors, par contre, non, je reviens juste quand même sur le fait qu'il n'y a pas que Fabien Roussel qui est venu, qui est venu justement apporter son soutien à François Ruffin, parce que d'autant qu'il faut voir comment on apporte son soutien à François Ruffin. C'est que moi, en soi en précis, j'apporte pas un soutien incommensurable à François Ruffin sur tout ce qu'il a dit. C'est par rapport aux attaques qu'il a subies, là oui. Mais on peut aussi faire ça et dénoncer ce qu'a dit François Ruffin. Et c'est ce que je fais là, c'est ce qu'a fait Benoît Hamon à la fête de l'UMA, et c'est ce qu'ont fait d'autres élus du NFP, lui d'ailleurs n'est pas élu, mais ou personnalité politique de gauche à ce moment-là. La peur de Mélenchon, s'il y avait eu la peur de Mélenchon, il n'y aurait pas eu le NFP tel quel. S'il y avait la peur de Mélenchon... Non mais si, c'est vrai. S'il y avait le,
si
y avait,
c'est parce
si y avait
la peur de Mélenchon qu'il y a le NFP
mais non,
tel
mais
quel.
Non, parce que s'il y avait eu la peur de Mélenchon, on aurait cédé beaucoup plus à la France Insoumise que ce qui n'a été le cas dans
Mélenchon
ces,
ne voulait pas
dans
le gouvernement.
Ce qui n'a été dans ces, dans ces négociations. Au contraire, la France Insoumise... Et quand même, les écologistes, par exemple, ont beaucoup plus gagné dans, ces, dans les négociations pour les dernières législatives que les insoumis. Les socialistes en ont plus gagné aussi. Tout le monde quasiment en a le plus gagné, sauf le PC et eux. Ça, d'accord.
De quoi,
mais donc,
aux européennes.
Oui, non, mais d'accord. Sauf qu'aux législatives précédentes et aux présidentielles précédentes, les Verts, ils ont quasiment, ils ont arrivé à peu près à 5, ils ont fait plus que. Et au final, en proportion, ils ont eu une plus grosse progression que les insoumis. Donc, faut pas dire ça. Donc, au contraire, on voit par exemple une Marine Tondelier qui arrive beaucoup plus à se faire entendre ces derniers moments, et elle n'hésite pas et il n'hésite pas dans le Front Populaire à renvoyer des fois Jean-Luc Mélenchon dans ses cordes. Donc aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il a, c'est clair et net, un pouvoir de nuisance qui est important, et je pense que de toute façon, dans les années qui arrivent, il va falloir que Jean-Luc Mélenchon et d'autres, hein, parce que quand j'entends de nouveau un François Hollande qui commence à vouloir revenir pointer le bout de son nez, député de Corrèze, c'est très bien, on n'oubliera pas ce qui s'est passé pendant 5 ans quand il était président de la République. Donc tous ces personnels-là qui ont en plus un certain âge, ben, à un moment donné, il va falloir passer la main, et c'est ce qu'on espère pour les prochaines années, en tout cas à génération. Et à mon avis, on est beaucoup au sein du Nouveau Front Populaire, et même en France, à penser ça.
C'est fini. Ouais, 762e mêlée de l'info est terminée. Merci beaucoup à tous les trois d'y avoir débattu dans les règles. Merci aussi à Coraline Camembrac à la technique. Elle est de retour aujourd'hui. Podcast disponible dès ce soir. Rendez-vous maintenant jeudi prochain. Très bonne fin de semaine et excellent week-end à tous.